Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Cinémag, une invitée d'honneur exceptionnelle, quelqu'un que nous connaissons bien, qui est Véronique Mériadec. Véronique, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Merci d'avoir accepté notre invitation à propos de la sortie dans toute la France, mais en particulier à Ciné-Centre à Dreux et bientôt à Chartres, de ton film En mille morceaux. Ce film, c'est une expérience extraordinaire, exceptionnelle pour nous sur le territoire de l'Eure-et-Loire, et tu vas nous en parler aujourd'hui.
Avec plaisir.
Quelques mots, Véronique, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, parce que tu es une Drouaise, une vraie Drouaise.
Oui, je suis arrivée à Dreux, j'avais 15-16 ans environ, donc ça fait quelques années maintenant. Mon premier job, c'était justement dans une radio, la radio Amie, et non concurrente, la radio des Trois-Vallées. Et puis, pendant ce temps-là, je faisais des études de cinéma à Sancier, à Paris. Et puis, je suis partie faire le tour du monde une fois, deux fois. Quand je suis rentrée, j'ai monté une petite société de production et ma vie de documentariste a commencé.
Donc, un certain nombre de courts-métrages et même de longs-métrages à ce moment-là ?
Oui, en plus des documentaires pour la télé, c'est vrai que j'ai fait quelques courts-métrages. J'ai fait un moyen long-métrage qui s'appelle Amnesia, avec lequel j'ai fait quelques festivals, qui n'est pas sorti en salle à l'époque. Je n'avais pas compris en fait comment ça fonctionnait. Donc je l'avais déjà autoproduit. Et puis oui, une dizaine de courts-métrages, on va dire.
Alors comment, dans ta carrière, dans ta vie, arrive ce projet en mille morceaux ? D'abord, j'imagine que ça fait quelques années déjà.
Oui, mais moi, j'ai toujours écrit, en fait. J'ai aussi publié 3 romans et j'ai coutume de dire que j'ai pas vraiment trouvé la clé pour entrer dans le monde du cinéma. C'est pas faute d'avoir essayé, peut-être de pas être à Paris et... j'ai certainement pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas rencontré les bonnes personnes et j'avais pas suffisamment le talent non plus pour avoir des projets qui emballaient les producteurs. J'ai toujours trouvé très très compliqué de faire avancer des projets. Et puis, arrivant à la cinquantaine, j'avais produit, réalisé une trentaine de documentaires, mais toujours très, très chronophage. Et du coup, je reculais le moment de me dire, il faut vraiment que je fasse un long. Donc, j'ai cherché une histoire que je pouvais quasiment autoproduire. En fait, ça a été ça qui a présidé en mille morceaux. Je me disais, il faut que si c'est pas maintenant que tu te lances, arrête le documentaire. T'as pas réussi par les voies normales, classiques, à faire du cinéma. Il faut absolument que tu produises quelque chose par toi-même. Donc, je me suis dit, le truc le plus évident, c'est de faire un huis clos. Ou alors, faire un film, avec le téléphone portable, comme ça se fait. Hein. On se souvient du projet Blair Witch, il y a quelques années maintenant. Mais bon, maintenant, c'était devenu très, très éculé aussi, ce mode de filmage. Donc... jusqu'à ce que je tombe sur un documentaire qui s'appelle Le Tueur de la Rivière Verte, qui raconte l'histoire d'un serial killer qui doit, donc c'est une histoire vraie, affronter l'ensemble de ses victimes, des familles de victimes, puisqu'il a tué près de 70 femmes, plus de 70 femmes, et donc toutes viennent l'insulter, lui cracher à la figure, évidemment, jusqu'à ce qu'une femme dise « Moi, j'ai fait un autre travail, je vous ai pardonné ». Et de là, je me suis dit, oh là là, il y a des gens qui sont capables de pardonner l'impardonnable, qui sont capables de faire ce travail-là, ce chemin. C'est extraordinaire, ça me semblait tellement loin du mien, tellement loin de ma façon de penser, que je me suis intéressée à ces gens. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein dans le monde. Des fois, c'était encadré, c'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Des fois, ça prend des proportions énormes quand c'est les Hutus et les Tutsis. Il y avait plein d'exemples dans le monde de gens qui sont capables de pardonner l'impardonnable. Et j'ai envie de raconter l'histoire d'une femme qui a perdu son enfant qui a été assassinée et qui rencontre donc l'assassin de son fils et qui elle-même fait une espèce de chemin vers la lumière, vers autre chose. Et voilà, c'est pour ça qu'en mille morceaux est né en huis clos.
Alors, à ce moment-là, tu as ton thème, qui est effectivement un thème extrêmement prenant, et il reste à écrire le scénario, hein, qui est quand même un peu, à part les questions financières, mais artistiquement, c'est le nerf de la guerre, ce scénario. Alors, comment ça se passe? On sait que tu travailles avec Gérald Massé. Tu peux nous dire un mot de cette collaboration?
Oui, justement, ça m'a paru vraiment naturel de travailler avec Gérald, parce que Gérald est un grand spécialiste des affaires carcérales. Il a écrit 2 tomes des affaires criminelles d'Eure-et-Loire qui se sont extrêmement bien vendus. Il a couvert des procès pendant qu'il était journaliste. Et je lui ai dit, il faut qu'on écrive absolument quelque chose là-dessus, parce qu'il fallait quand même connaître un petit peu justement l'arrière-boutique de la justice quand il parle des conditions carcérales, etc., dans le film. Donc voilà, on a fait un travail de 1 ou 2 années à peu près sur ce thème. Moi, j'étais plutôt dans le rôle de Nicole Parmentier, la mère, lui plutôt dans le rôle du meurtrier.
Ah oui,
et puis,
il y avait cette identification.
Oui, ouais, chacun, on a essayé, chacun, c'était pas toujours facile, hein. Puis moi, j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il disait, et lui aussi. Mais quand même, bon an, mal an, on a réussi à sortir quelque chose qui a beaucoup évolué. Hein, on a commencé à écrire il y a 5 ans, on est rentré en prod il y a 3 ans, et on a tourné en décembre 2016, et le scénario a tout le temps évolué jusqu'au moment où on tourne, où les comédiens parlent, et encore au montage, quoi. C'est ça qui est fabuleux dans le cinéma.
Alors, on peut parler aussi un petit peu justement de ces années de production, parce que moi, ce qui me fascine entre autres dans ton aventure, c'est ton incroyable persévérance, parce qu'on peut dire que si ce film existe, cela tient d'abord évidemment à ton talent, mais aussi à ton énergie. Donc, sans vouloir entrer dans les détails, à partir du moment où le film était écrit, il fallait encore le produire, et c'est quand même une nouvelle galère qui commençait d'une certaine façon.
Ouais, ouais, c'était la plus grosse, hein, parce qu'effectivement, l'écriture, ça n'a jamais été un problème pour moi ni pour Gérald. On a essayé, hein, tous les moyens pendant presque 2 ans, donc tous les guichets du cinéma, sans les citer, dans leur totalité, nous ont tous refusé leur aide. Donc effectivement, une fois qu'on avait ces réponses, je me suis dit, je suis pas allée jusque là pour arrêter. Donc le financement, ça a été beaucoup d'amis, citoyens, Drouet, collectivités territoriales. Et puis du bénévolat, beaucoup de bénévolat, et là ça a été un peu le revers de la médaille, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'après avoir connu 2 ans d'échec auprès de tous les guichets cinématographiques de l'industrie du cinéma en France, il y a eu une espèce de force, de vague qui s'est mise en place autour de nous, qui a été très, très émouvante. Moi, plusieurs fois, je pleurais encore même à l'avant-première à Paris. J'étais vraiment au bord des larmes en me disant, mais c'est des centaines de personnes. Hein. Faut quand même savoir que c'est des centaines de personnes dont plus de la moitié ne me connaissaient pas, qui se sont dit, bah tiens, on va aller aider ce film, quoi. Donc ça, d'un autre côté, j'ai été très déçue, très meurtrie de ne pas avoir été compris dans le film que je voulais faire, et de savoir qu'il y a des millions, quand je dis des millions, c'est des millions qui sont donnés au cinéma français, mon petit quart d'heure coup de gueule, et que nous, on n'a même pas eu 10 euros pour à un moment dire, bon, bah, on lui laisse quand même une chance, voilà, peut-être qu'elle va nous sortir quelque chose. Mais rien du tout, quoi. Ça a été zéro à l'ensemble des guichets. Et du coup, voilà, après toutes ces années de déception, ça a été le bonheur de voir que plein de gens nous ont dit, bah, nous, on va t'aider à le faire. Et ça a marché jusqu'aux comédiens, quoi.
Alors justement, je voulais t'en parler, ces comédiens qui sont évidemment formidables dans le film. Un film comme le tien, ce huis clos, repose énormément sur leur performance. Comment arrivent-ils sur le projet, et aussi comment les convainc-on? Parce que c'est quand même un petit projet, petit au sens économique du terme.
Oui, bien sûr. Moi, je l'ai jamais caché, et Clémentine le redit souvent, il y a eu d'autres comédiennes avant elle, de renommée aussi importante, qui ont lâché le projet pour différentes raisons. Donc là aussi, ça a été pareil du côté des comédiens, ça a été aussi compliqué pendant un an, et le décor était déjà posé, hein. On avait déjà les locaux, on devait tourner, et 15 jours avant de tourner, les comédiens se sont désistés. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui a vraiment la pêche, la hargne, la volonté, voilà, quelqu'un d'un peu à part dans le cinéma qui va être intéressé par un film impossible. Donc voilà, tout d'un coup, le nom de Clémentine Célarié m'est apparu. J'ai envoyé un SMS en disant, voilà, j'ai un film impossible à vous proposer. Et elle m'a rappelé tout ça, elle m'a dit, un film impossible, c'est pour moi. J'ai envoyé le scénario et on s'est appelé à 1h du matin. On est resté 2h. Elle m'a dit, je vais faire le film. Et c'est elle qui a été chercher Serge Riaboukine, parce qu'évidemment, c'était très compliqué d'aller chercher un assassin d'enfants à tendance pédophile. Donc, c'était très compliqué et on voulait, et comme tu le dis, c'était tellement, tellement important que le film repose sur des épaules très solides que. Qu'on n'a pas, qu'on a pas voulu de faire de concessions au niveau des comédiens. Quoi.
Véronique, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien autour de En mille morceaux. Mais pour nous quitter, nous allons entendre un titre qui te tient particulièrement à cœur.
Il s'agit de Calogero, On n'est riche que de ses amis, ça me semble très approprié.
On ne saurait mieux conclure. Bonne semaine à toutes et à tous, à très bientôt. Merci Véronique.
Merci.
Des chansons, des filles, beaucoup de vers et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Des tempêtes arrivent avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Je ne suis riche que de mes amis.